en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Madame le Président. J'ai préparé une sorte de guidane comportant certaines citations importantes que je pourrais ne pas faire. Donc, alors ceux qui ne l'ont pas encore reçu sont priés de le recevoir et de le faire passer. Bien, Madame le Président. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères et amis, avec le sujet que je remercie Chantal Delsol de m'avoir confié, je me trouve devant une opinion commune sur l'islam, à savoir qu'il ignore une distinction que nous nous flattons d'opérer entre le politique et le religieux. Pour ne citer que de grands esprits, c'est ce que dit Guizot. C'est la première citation que je n'ai pas besoin de lire. Cette indifférenciation est sentie la plupart du temps comme un défaut contre lequel on est prompt à brandir la déclaration de Jésus sur Dieu et César. Elle est pourtant parfois perçue comme une qualité que l'on fait valoir contre la schizophrénie du chrétien citoyen de deux cités. Ainsi Rousseau, pour lequel Mahomet eut des vues très saines, à la différence de Jésus qui a opéré cette funeste division. C'est le cas également d'un politique réel qui avait lu Rousseau, à savoir Napoléon, dans un propos du 11 février 1804 rapporté par Pellet de la Lozère et qui est la troisième citation figurant sur ma feuille de papier. Il faudrait aussi, parmi ceux qui regrettent que l'islam n'ait pas supplanté le christianisme, citer Nietzsche dans l'Antéchrist, voire, à un autre niveau, invoquer certains propos de table de Hitler. Il y a du vrai là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de vagues, car les deux notions, religion et politique, sont trompeuses. Je vais donc essayer de les éclairer. En ce qui concerne la notion de religion, eh bien, marqué par la vision chrétienne des choses, nous réduisons le religieux à la foi, aux dogmes qui en formulent le contenu, et aux pratiques pieuses comme la prière, les sacrifices, le jeûne, le pèlerinage, en excluant ainsi les normes de l'agir. Notre incapacité à saisir l'islam est une conséquence directe de la révolution chrétienne, consistant à ne garder du système juif de commandement que le décalogue. Et nous sommes, même le bouffeur de curé le plus enragé, encore trop chrétiens, en ce sens que nous appliquons à l'islam des schémas de pensée d'origine chrétienne. Le christianisme est la religion absolue. Le mot est de Hegel, dès la période de Iéna, et plus systématiquement dans ses cours de philosophie de la religion. Ici, je le détourne de son sens, mais en retournant à l'étymologie, absolue voulant dire délié, ce qui a l'avantage de priver l'expression de toute connotation valorisante pour lui réserver une fonction exclusivement descriptive. Le christianisme est la religion qui n'est qu'une religion et rien d'autre. Le judaïsme est une religion et un peuple. Le bouddhisme est une religion et une sagesse. L'islam est une religion et une loi. Le plus fort est que nous avons le culot de dire aux musulmans « L'islam comme religion ne nous gêne pas, vous pouvez jeûner, prier, aller à la Mecque si cela vous chante, en revanche, nous n'accepterons pas la charia, dont, entre autres, les règles vestimentaires, comme le voile, les règles de l'abattage rituel, etc. Nous demandons aux musulmans de renoncer à ce qui, pour eux, est partie intégrante de leur religion, voire à ce qui en constitue l'essentiel. Le vrai problème, j'aurai à l'expliquer, est celui de l'origine divine des normes. Il est plus juridique que politique. Politique, autre mot ambigu, la politique est un cas particulier de la philosophie pratique comme art du gouvernement. Je prends ici la définition du politique telle que la donnent les philosophes musulmans du Moyen-Âge dans le sillage d'Aristote. Il distingue trois niveaux de l'art de gouverner, selon qu'il porte sur l'individu, la famille ou la cité. Il est alors, cet art de gouverner, soit éthique, soit économique, au sens ancien du terme, soit politique, la politique étant le gouvernement de la cité. Le Coran et le Hadith contiennent beaucoup de choses sur la conduite de l'individu, isolé et dans sa famille. Donc beaucoup d'éthique et d'économique, si vous voulez. On y trouve en revanche peu de choses sur la politique proprement dite. Un verset, dit habituellement « verset des émirs », recommande, il est sur votre feuille, d'obéir à Allah, à l'envoyé et à ceux qui ont l'autorité. Mais c'est sans dire comment ceux-ci doivent être choisis et qui ils sont. Il faut se livrer à 1000 contorsions pour trouver dans les textes sacrés des indications sur le système politique optimal, surtout quand on cherche à y trouver de quoi se prononcer en faveur de la démocratie représentative. Mais on y arrive. Par exemple, en se fondant sur les récits selon lesquels Mahomet aurait parfois demandé l'avis de ses compagnons, voire accepté de se plier aux décisions d'un conseil. Y voir l'ancêtre d'un parlement est une malhonnêteté intellectuelle, mais elle part des meilleures intentions qui soient. L'idée de gouvernement implique en tout cas celle d'une direction à prendre. Or donc, vers quel but vaut-il tendre ? Par quel chemin convient-il de s'en approcher ? Où trouver cette voie droite dont parle la toute première sourate ? Eh bien, cette voie droite est celle qu'indique la charia. Le terme désigne justement un chemin, et jadis, selon les étymologistes, le chemin qui, dans le désert, mène à un point d'eau. Comme métaphore, il signifie la démarche à suivre, équivalent de l'hébreu halakha. La notion fonctionne souvent comme un épouvantail. On désamorce la frayeur des Occidentaux en faisant valoir qu'elle recouvre une pluralité de systèmes juridiques. Ainsi, l'islam sunnite connaît quatre écoles, parfois appelées rites. Il n'y a donc rien qu'on pourrait appeler la charia. On rappelle aussi que ces systèmes sont susceptibles d'évoluer. C'est exact. Même si en fait le droit islamique est ankylosé depuis plusieurs siècles, la réouverture des portes de l'ijtihad, de l'effort personnel pour trouver la bonne solution à un problème de conduite, disons, cette réouverture demandée par tant de monde n'est pas exclue en principe. Reste que, derrière la pluralité des systèmes juridiques, une idée demeure que l'on peut exprimer par l'infinitif, qui est à la racine du mot charia, à savoir, bon, char, le fait que Dieu indique à l'homme la valeur juridico-morale de certains comportements, voire, dans l'idéal, de tous les comportements. Et autre idée fondamentale, intimement liée à celle-ci, Dieu est le seul législateur légitime, contre lequel aucune décision humaine ne saurait faire le poids. Et sur ce point, l'islam ne peut en rabattre sans cesser d'être lui-même. Si certaines normes viennent de Dieu, et directement, la seule tâche concevable est de les appliquer. L'idée d'interprétation n'a pas le même sens qu'en Occident gréco-judéo-chrétien, ou, si l'on préfère, athéno-jérusalémite. Là, le modèle est celui du jugement d'équité, epieikeia, tel que le définissait déjà Aristote. Lorsque l'application mécanique d'un texte mènerait à des injustices révoltantes, l'équité remonte de la lettre à l'esprit, en l'occurrence, à l'intention du législateur. Mais là où le législateur est Dieu, qui est éternel et omniscient, il ne peut être question de supposer que celui-ci n'aurait pas prévu d'avance la totalité des cas. La seule latitude qui reste est celle de l'interprétation des mots. Ainsi, le commandement de se voiler ne peut être compris comme celui plus général de se vêtir décemment selon les climats et les mœurs. L'interpréter consistera uniquement à s'interroger sur la longueur ou sur l'opacité du voile. La meilleure attestation du caractère juridique de l'islam se trouve, me semble-t-il, dans les implications d'un verset fort anodin, mais qui contient une caractérisation qui me semble très révélatrice d'un concept très sublime, celui du bien. Ce verset figure dans une sourate traditionnellement classée parmi celles descendues, c'est le terme technique, à Médine, à l'époque donc où Mahomet, devenu chef d'une petite armée, dicte à ses partisans les règles selon lesquelles Dieu veut qu'ils se comportent. Allah donc est censé dire aux musulmans, c'est sur votre feuille, « Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi pour les hommes, vous commandez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Dieu. » L'expression « commander le bien, interdire le mal » est au fondement d'un devoir central du musulman qui est d'intervenir soit par la main, soit par la parole et à tout le moins par la prière, là où il s'agit de faire respecter la justice et de réprimer son contraire. Je voudrais faire voir ici plutôt la bizarrerie de la formule, plus précisément celle du lien de causalité entre la dignité supérieure prêtée à la communauté musulmane et l'attitude qui en justifie la valorisation. On attendrait plutôt, en effet, vous êtes la meilleure communauté, vous faites le bien, vous évitez le mal, comme on le trouve dans les naïves et glorieuses tautologies bibliques. Mais ici, le bien n'est pas, ou il n'est pas seulement ce qui est accompli, mais ce qui est commandé par une autorité. Le mal, symétriquement, n'est pas seulement ce qui est évité, mais ce qui est interdit par une autorité. Ce bien n'est donc pas de nature morale, mais de nature juridique. Le but dernier de l'islam n'est donc pas la violence dont les médias sont remplis, mais ce que j'aimerais nommer tout simplement la force. J'aurais envie d'employer l'allemand Gewalt, qui peut certes signifier la violence, mais qui désigne aussi l'autorité légitime de l'État, Staatsgewalt. On pourrait aussi utiliser le mot de vigueur, au sens où une loi est en vigueur, mais au fond, certains usages du français force pourraient parfaitement convenir. C'est ainsi que j'ai intitulé, si je puis me permettre de me citer, le chapitre de mon bouquin « La loi de Dieu » qui traite de l'islam, « Force reste à la loi ». Il s'agit d'assurer la souveraineté de Dieu sur la communauté humaine. Et cette souveraineté ne passe pas par la voix de Dieu dans la conscience, mais bien par une parole très explicite, celle qui fut dictée à Mahomet et consignée dans le livre saint, accompagnée des déclarations du « beau modèle », c'est une expression par laquelle le Coran désigne Mahomet, à savoir le prophète. La violence n'est pas nécessaire, ni même souhaitable. Il est préférable d'éviter d'avoir à combattre, aussi bien pour des raisons morales que platement économiques. La situation idéale est celle où l'adversaire cède sans résistance et donc où l'on n'en vient pas aux mains. On se souvient du paradoxe de Clausewitz, selon lequel la guerre est toujours commencée par celui qui se défend. Et un État bien policé n'a de toute façon pas besoin de recourir à la violence. Le but des guerres de conquête qui marquent l'entrée de l'islam au 7e siècle sur la scène de l'histoire, le but des guerres de conquête telles qu'elles sont interprétées par les théologiens postérieurs, nous ne savons pas trop ce qui s'est passé au 7e siècle, ce but n'est pas directement la conversion des populations soumises. C'est l'établissement d'un pouvoir islamique permettant la liberté pour la vraie religion de se montrer la meilleure. Contraindre à se convertir n'est tout simplement pas faisable. D'où le temps chanté, il n'y a pas de contraintes en religion. Vous avez le texte, mais tout le monde le connaît. Les règles réduisant les non-musulmans à un statut de sujet de seconde zone ont une fonction pédagogique. Les humiliations ont pour but de faire comprendre à ceux-ci qu'il est dans leur intérêt bien compris d'adopter la religion vraie. La terreur, si médiatisée de nos jours, n'a pas pour fonction de satisfaire un quelconque sadisme, même si les exécutants se recrutent parmi des gens dont la psychologie s'y prête. La vie de Mahomet contient des exemples de cas dans lesquels la terreur réelle ou possible, voire la seule détermination des adeptes, suffit à emporter la soumission. Ainsi de ce personnage qui dit à son frère qu'il le tuerait sans hésitation si le prophète lui en donnait l'ordre. Frappé par la qualité de cette religion, le frère se fait musulman. C'est la phrase que je cite, peut-être bien la dernière d'ailleurs. Le rôle d'un État islamique, donc le rôle d'une politique islamique, se comprend à partir de la tâche fondamentale qui consiste à donner force à une loi qui vient de Dieu. Le but de l'État n'est donc pas la paix entre les hommes, mais le service de Dieu. Dès le Coran, il existe un État, certes rudimentaire. On le voit dans la sourate la plus tardive, qui peut abroger le contenu normatif des autres qui la précèdent. Il s'agit d'un des versets qui précise l'emploi de l'aumône, une sorte d'impôt révolutionnaire, je crois que ça me semble plus proche de la réalité que ce que nous appelons l'aumône, bon, que nous faisons à mendiant dans le métro. Alors, je cite donc, vous avez le texte, « Les aumônes sont destinées aux pauvres et aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir les aumônes et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à rallier, donc ceux qu'il s'agit d'acheter, au rachat des captifs, à ceux qui sont chargés de dettes, à la lutte dans le chemin de Dieu et aux voyageurs. » Le voyageur en question, c'est le guerrier, n'est-ce pas ? C'est celui qui va dans le chemin de Dieu, le chemin de Dieu étant la guerre pour accroître le domaine pacifié de l'islam. On a donc le schéma d'une structure comportant des fonctionnaires, un service de propagande, une armée et même la sécurité sociale. Comment ne pas appeler cela un État, même si c'est un État évidemment incoatif ? L'idée d'un État neutre est impossible, car elle suppose l'existence en l'homme d'un lieu de neutralité. Cet État neutre supposerait en effet qu'il existe en l'homme un terrain neutre situé à un niveau plus fondamental que la diversité des options religieuses. Or, l'islam investit déjà le champ de l'humain dans sa totalité. Il n'existe pas en l'homme de niveau plus fondamental que la religion, un niveau de simple humanité, si l'on veut. Le caractère inné de la religion n'est pas celui d'une orientation naturelle sur Dieu, du désir d'une anima qui serait naturalitaire, ce que l'on voudra. C'est la présence effective, dès le début de l'histoire, et même avant celle-ci, selon un verset que je n'ai pas cité, mais qui se trouve qui est le verset 172 de la 7e sourate, la présence dès le début de l'histoire et même avant celui-ci, celui-ci, de la religion originelle, ressurgit après des siècles d'occultation grâce au rappel lancé par Mahomet. L'identité entre l'État et la loi est supposée avoir été réalisée dans la période initiale à Médine. Il est intéressant que le nom pris par cette ville ait été justement Madina, au sens de cité ou de capitale. Ce nom de lieu, pour employer le terme technique de la grammaire arabe, désignant très exactement l'endroit où le jugement din est rendu. Depuis lors, cette identité entre l'État et la loi n'a jamais existé ailleurs que dans les rêves des juristes, guère plus que l'idéal byzantin de la symphonia ou la théorie papale des deux glaives. Les gouvernements dont l'histoire nous rapporte les agissements se conduisaient selon des maximes de prudence qu'ils trouvaient formulées dans des miroirs des princes dus à des auteurs grecs, persans ou indiens. Un gentleman's agreement réglait les rapports des gouvernants avec les gens de religion. Il les honorait des lèvres et ceux-ci fermaient les yeux sur les écarts des puissants par rapport à la loi dont ils donnaient des versions, par ailleurs, de plus en plus raffinées et de moins en moins applicables. Or, couper la main du voleur, s'il continue, lui couper la seconde main. S'il continue encore, lui couper un pied, puis le deuxième pied. Bon. Lorsqu'on n'a plus de main du tout, voler devient quand même assez problématique. Bon, eh bien, c'est le genre de choses auxquelles s'amusaient les juristes médiévaux, un petit peu comme les théologiens du nominalisme tardif se demandaient s'il fallait obéir à Dieu si celui-ci nous commandait de lui désobéir. Ça a le même rapport avec la réalité concrète dans les deux cas. C'est peut-être ici que quelques mots sur le terme « calife » pourraient trouver leur place. Le mot dans le Coran ne signifie pas « représentant de Dieu », ce qui serait une monstruosité par rapport à l'idéal islamique d'une immédiateté de la créature à son créateur. La formule « calife de Dieu » n'apparaît jamais dans le livre, à l'encontre du message fondamental duquel elle irait. Cette formule signifie encore moins « successeur de Dieu », ce qui serait alors là pur blasphème, mais les gouvernements réels qui se sont targués du titre de calife ont évidemment revendiqué cette fonction représentative à travers d'autres métaphores comme « ombre de Dieu », la formule originelle du Coran signifiant, selon toute vraisemblance, que les hommes vont être les successeurs des anges, d'où la réaction fort négative des anges lorsque Dieu leur annonce qu'il va créer sur terre un calife. En conclusion, devant le problème posé par la coexistence de la religion et de la politique en islam, ma réponse serait que la situation est à la fois meilleure et pire qu'on ne le pense quand on répète que les deux y seraient simplement confondus. La situation est meilleure dans la mesure où rien dans les sources ne se prononce nettement en faveur d'une forme déterminée de régime. En particulier, si l'on considère que notre chère démocratie représentative est le moins mauvais régime, rien ne permet de la croire impossible en terre islamique. Mais la situation est pire dans la mesure où la revendication d'un monopole divin d'édiction des normes englobe la totalité des dimensions de la vie humaine, vie humaine dont la politique ne représente qu'un cas particulier, certes important, voire décisif, mais non unique. Eh bien, je vous remercie de votre attention.